Et bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, quelle conception nous faisons-nous de la liberté? La sécurité est-elle la première des libertés? Le philosophe Michel Fossel, en liberté surveillée, il sera notre invité dans la deuxième partie de l'émission à l'occasion de la parution de son essai « L'avenir de la liberté » de Rousseau à Hegel qui paraît au PUF, c'est-à-dire avec nous à partir de 12h55 après le journal d'Antoine Mercier. Mais d'abord, à l'occasion des 40 ans de la disparition de la cantatrice Ave Maria Callas avec Tom Wolfe, commissaire de l'exposition qui se tient actuellement à la scène musicale et qui lui est consacrée. L'exposition se tient jusqu'au 14 décembre et réalisateur du film Maria by Callas en salle le 13 décembre. Et la comédienne réalisatrice Fanny Ardant qui lui a redonné de la voix sur les planches et au cinéma. Ils sont tous deux nos invités tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Il y a souvent, très souvent, que je suis heureuse. Surtout quand je vois qu'à travers les années, j'ai pu faire comprendre mon but, que c'était l'expression dans la musique. Parmi les notes, trouver la vérité.
À l'occasion des 40 ans de sa disparition, une exposition, un film, un livre, Tom Wolfe est présent sur tous les fronts. Bonjour.
Bonjour.
Trois fois Maria Callas au théâtre dans Masterclass il y a 20 ans, mise en scène par Roman Polanski, au cinéma dans Callas Forever de Franco Zeffirelli en 2002, un des metteurs en scène d'ailleurs fétiche de Callas avec Jeremy Irons. Et jamais 203, aujourd'hui vous lisez Lettres et mémoires inachevées dans le film Maria by Callas de Tom Wolfe qui sortira le 13 décembre. Bonjour Fanny Ardant.
Bonjour.
Violetta chez Verdi, Norma pour Bellini, Lucia de Donizetti, Tosca de Puccini, Médée par Cherubini. Elle a réellement, charnellement, cette femme donné vie à chacun de ses rôles, à chacune de ses femmes à tour de rôle. Un sens dramatique, hors du commun, un tempérament scénique incomparable, c'est ce qui l'a caractérisé avant tout pour vous, Fanny Ardant.
Curieusement, moi, ce qui m'a fascinée dans Callas, c'était au-delà de la chanteuse, c'était l'artiste. C'était l'idée qu'elle cherchait toujours l'absolu, que cette fameuse phrase « 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage ». Donc elle était exemplaire pour tous ceux qui voulaient accomplir quelque chose de magnifique. Et que aussi, je pensais que pour la musique et l'opéra, qui est souvent décrié, en disant « ah non, mais il faut avoir fait des études » ou des choses comme ça bizarres, alors qu'elle, elle amenait en prise directe l'opéra dans les choses... Voilà, charnel, essentiel, les grands sentiments que tout le monde éprouve.
Par sa présence, Tom Wolfe.
Oui, par sa présence, par sa façon d'incarner, de donner vie à ces personnages qui ont eu une dimension, grâce à elle, universelle, populaire et accessible. Je crois qu'elle permettait de transmettre une émotion à travers son chant et à travers son interprétation, aussi son interprétation d'actrice, parce qu'elle était une grande tragédienne, et de transmettre cette émotion de façon universelle, quelque chose qui touche tout le monde, quel que soit notre âge, notre culture, nos origines. Et il y a cette dimension unique chez elle qui résonne dans quelque chose de notre âme, peut-être.
C'est vrai que sa voix lui permettait de tout chanter, la Bible de l'opéra, disait Adèle Bernstein.
Oui, certainement, elle avait des capacités techniques absolument hors normes, mais elle s'est vraiment dédiée quand même à un style très particulier qui est celui du bel canto italien, l'opéra italien du 18e et du 19e siècle. Et c'est un style auquel elle s'est vraiment attachée, même si elle a chanté aussi du Wagner, du Puccini, mais c'était son style de prédilection, c'était son monde, comme elle le disait, et elle a permis de donner renaissance à beaucoup de ses compositeurs qui avaient été oubliés, dont les opéras, des chefs-d'œuvre tels que Norma étaient tombés en désuétude, et des rôles et des œuvres auxquelles elle a vraiment redonné naissance au XXe siècle.
Thank you. Et ça, c'est peut-être l'un des airs les plus célèbres de Maria Callas, l'aria Castadiva de Norma de Bellini. C'est un extrait d'un enregistrement inédit que vous proposez dans cette exposition dont vous êtes le commissaire, Tom Wolf, aujourd'hui. Maria by Callas, exposition à voir à la scène musicale. Grande voix, immense carrière. En 25 ans, elle a enchaîné plus de 500 représentations, vraiment des centaines. La reine du bel canto a marqué l'opéra comme aucune autre. À l'occasion des 40 ans de sa disparition, donc, une exposition, un film, un livre, on le disait, Tom, photographe et réalisateur, devenu gardien du temple, héritier, biographe de Maria Callas. Qu'est-ce que vous gardez de ces trois fonctions? Vous dites que sa légende est truffée de contre-vérités. Il y avait quand même l'envie pour vous d'aller chercher cette vérité, sa vérité.
Oui, ça c'est quelque chose qui m'a animé depuis le départ, c'est de trouver l'authenticité et aussi d'arriver à comprendre qui était la femme, qui était Maria. Et j'ai réalisé assez rapidement qu'il y avait ces deux facettes en elle, qu'il y avait Maria et qu'il y avait la Callas. Et comme elle le disait elle-même, elle devait vivre et cohabiter avec les deux. Mais je vois mon rôle depuis le départ en fait surtout comme un messager. C'est-à-dire que ça a été bien sûr pour moi une passion, une curiosité, une envie de découvrir et un magnifique voyage que j'ai entrepris dans cet univers qui ne m'était pas du tout familier, que j'ai commencé il y a 4 ans.
Alors justement, auprès de qui êtes-vous allé chercher ces messages ?
Eh bien, pendant 4 ans, j'ai un peu sillonné le monde, de rencontre en rencontre, et ça m'a amené à ses proches, à des gens qui ont vécu à ses côtés, parfois très longtemps, comme son majordome et sa femme de chambre, qui ont passé 25 ans à ses côtés, qui ont vécu avec elle, et qu'elle considérait comme sa seule famille. Et de pouvoir transmettre aussi, aujourd'hui, 40 ans après sa mort, des documents nouveaux.
Parce que vous avez retrouvé aussi son journal intime.
Ses mémoires inachevées qui avaient été conservées par son majordome et sa femme de chambre. C'est quelque chose qu'elle avait commencé à écrire au milieu des années 50, qu'elle a interrompu et qu'elle a repris un tout petit peu à la fin de sa vie. Voilà, je pense qu'elle avait à cœur de publier quelque chose qui permettent aux gens de connaître la vérité. Et comme elle n'a pas pu le faire de son vivant, c'est très modestement ce que j'essaye d'entreprendre aujourd'hui à travers ces différents projets.
Combiné à des archives inédites que vous avez collectées, triées, compilées et que l'on retrouve aujourd'hui en partie dans l'exposition Maria by Callas, prévue jusqu'à la mi-décembre. En immersion dans la tête de Maria Callas, elle nous parle et nous accompagne tout au long de ce parcours chronologique, de son enfance à New York à la scène des répétitions, au tombé de rideau définitif le 16 septembre 1977. Les dieux s'ennuyaient, ils ont rappelé leur voix, dira à sa mort Yves Saint-Laurent. Parce que c'est aussi dans sa voix, Fanny Ardant, qu'on peut trouver qui était cette femme. Vous racontez que pour préparer votre rôle pour le film, au théâtre aussi, dans les masterclass, vous avez très peu lu de choses sur elle ou d'elle, vous l'avez juste écoutée.
Oui, ce que vous disiez, Tom, c'est juste, parce qu'on a tellement écrit, puis chacun avait sa version des faits, alors qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est sa voix. Et dans sa voix, elle révélait des choses d'elle. Quand elle chante Vici d'arte, Vici d'amore, ou quand elle chante dans Carmen, il y a quelque chose en elle où elle avec le grand respect qu'elle a pour les œuvres, mais elle se l'approprie. Donc, dans sa voix, on sent, justement, ou quelquefois le désespoir, l'attente, l'enfance, les illusions, les promesses. Ça permet de construire un personnage éclatant comme ça, comme une lumière dans le noir.
Et tous ces fragments de voix, de pensées, de paroles, d'écrits, fragments sonores aussi, hein, comme ces répétitions inédites de 57 à Dallas ou les masterclass qu'elle a données, vous les présentez dans cette exposition, Tom Wolf, et quelques objets iconiques, dont une madone à l'enfant, un costume de Norma, celui de 65, sous la direction de Georges Prêtre. Maria Callas parlant d'elle, parlant de sa jeunesse.
La vérité est que je suis née en Amérique et je suis du sang pur grec, évidemment. Mais l'école, j'ai fait en Amérique jusqu'à 13 ans. Et après, j'ai commencé à étudier le chant. Alors, je ne pouvais pas y arriver, évidemment, à cet âge, à tout faire. Et alors, je n'ai pas fait de ces études, malheureusement, mais enfin. Vous savez, à 13 ans, il y a la mère et le père qui décident, n'est-ce pas? Et alors, voilà, ils ont décidé ça. Et le 37, je suis allée à Athènes. J'ai commencé tout de suite avec le conservatoire. Et alors, ma mère, évidemment, elle rêvait. Enfin, il paraît qu'elle avait rêvé quoi? La gloire, qu'est-ce que vous voulez? Je dois devenir une grande chanteuse. Et je ne pouvais pas lutter parce que, dans le temps, on faisait ce que les parents voulaient.
Alors, a-t-elle vraiment lutté? Fille d'immigrés grecs, enfant solitaire, mal dans sa peau, mais fascinée par le chant, elle va finir par s'imposer sur un répertoire italien, celui qui lui convient si bien, Rossini, Verdi, Bellini, Diva aussi pour Visconti, qui la mettra en scène dans 5 opéras entre 54 et 55. Maria d'un côté et la Callas de l'autre, Tom Wolfe. C'est vraiment cette dualité qui la caractérise.
Oui, absolument. Et de ce titre, Maria by Callas, s'est imposé à moi lorsque j'ai découvert une interview inédite qu'elle a donnée en 1970, dans laquelle elle dit « Il y a deux personnes en moi. Il y a Maria et il y a la Callas. » Et comme je le disais tout à l'heure, elle a ajouté « Je dois cohabiter avec les deux. » Et toute sa vie, finalement, peut être vue à travers ce prisme de la femme et de l'artiste. Et ce qu'on découvre, c'est que finalement, toute sa vie, elle a dû sacrifier l'un pour l'autre. Elle n'a jamais vraiment réussi à rassembler les deux. Elle a, tour à tour, sacrifié sa vie de femme pour sa vie d'artiste. Et puis finalement, sa vie d'artiste et sa voix qu'elle a sacrifiée pour vivre sa vie de femme, notamment à l'époque avec Aristote Onassis, et puis l'artiste qu'elle a essayé de retrouver à la fin de sa vie, puisque c'est tout ce qui lui restait, et la femme était effacée presque derrière ce monument, cette légende vivante que la Callas était devenue.
Mais tout le monde dans la vie doit choisir. Tout le monde, c'est comme la fable du loup et du chien, quand vous dites la femme a dû... Mais je pense qu'elle a préféré... être une grande chanteuse et avoir atteint un absolu que d'une femme heureuse dans la petite maison dans la prairie. C'est pour ça que moi, à chaque fois que j'entends dire ça, c'était comme si c'était un sac. Mais tout le monde sacrifie quelque chose. Parce que ça fait partie de la légende pour dans les chaumières de dire la pauvre, elle aurait aimé tellement être entourée de 5 enfants et de faire des tartes l'après-midi. Maquée. C'est faux, ça. Elle aimait chanter, elle aimait la musique. Mais moi, je pense que curieusement, quand je pense à Callas, elle a tout eu. Elle a eu la gloire, elle a eu l'amour fou pour Onassis, et puis après, elle a eu la mort jeune. Qu'est-ce que vous pouvez demander de mieux? Alors qu'on voudrait qu'elle soit à 110 ans comme Jeanne Calment dans un hospice? Non, personne ne veut ça.
Fanny Ardant, sa force, nous disiez-vous, c'était sa quête d'absolu. Elle n'était pas si érudite que ça, mais elle était habitée par la musique et au service de la musique. C'est notamment ce dont elle témoigne dans une lettre écrite en 1956 au critique italien Eugenio Garra. Elle raconte comment la musique l'occupe. Est-ce que vous pouvez nous lire?
Vous me demandiez de lire cette lettre?
J'adorais.
Là où cesse la parole, commence la musique. C'est le merveilleux Hoffmann qui l'a dit. Et véritablement, la musique est une chose trop grande pour pouvoir en parler. Mais on peut la servir, toujours, et la respecter toujours avec humilité. Chanter, pour moi, n'est pas un acte d'orgueil, mais seulement une tentative d'élévation vers ces cieux où tout n'est qu'harmonie. Maria Meneghini Callas, 1956.
Heureusement que le destin, appelons-le un maestro Séraphine, il avait besoin de moi. Et alors, il avait besoin d'une Isolde. Il m'a engagée à la Fenice de Venezia. Enfin, à la Scala, je suis arrivée beaucoup plus tard. Je suis arrivée le 52, si je ne me trompe pas. Et avec rien, disons, que mon monde particulier, que le bon Dieu m'a donné la façon de m'expliquer avec cet monde que j'applique à travers le chant à donner au public, ça m'a rendue fameuse. Avec rien que j'ai, je suis devenue ce que je suis devenue. Ce que vous dites que je suis devenue, évidemment, je me rends compte. Évidemment, ça effraie. Voilà pourquoi j'ai peur. Parce que, sûrement, vous m'avez donné une situation qui est splendide, unique au monde. Mais que c'est très, très haut, on est très, très seul, parce que quand, à un moment, on tombe, vous savez, la chute est très, très, très grande.
Fanny Ardant.
Moi, je pense à Achille. Dans la guerre de Troie, il y a ceux qui choisissent, comme Ulysse, puis Achille préfère avoir atteint les hauteurs, mais il ne vivra pas longtemps. Moi, c'est pour ça que elle me passionne, Maria Callas, parce que je pense que c'est comme quelqu'un qui s'est brûlé. Et je préfère ça à quelqu'un qui s'est un peu épargné comme une caisse d'épargne. Moi, souvent, quand quelqu'un me dit « moi, ça me barbe, l'opéra », alors je lui dis « allonge-toi dans le noir, on ferme tous les volets et on met la voix de Callas et je dis, je te défie de dire que tu n'aimes pas ça. Et il se relève du noir et il dit oui.
Les fois où sa voix l'a lâché, comme ce soir de janvier 58, à Rome, pendant Norma, ou cet autre soir de mai 68, toujours pour Norma, à l'Opéra de Paris cette fois,
en au 65.
Deuxième... 65
oui,
au deuxième
65.
Acte, quand elle craque, là, jamais le public l'a lâché, comme deux... sa voix, elle n'a pas été sifflée.
C'est deux moments très différents. Au moment de ce fameux scandale, entre guillemets, de Rome, on a dit, elle quitte la scène, elle est capricieuse, elle est scandaleuse, etc. Elle était simplement aphone, elle n'avait plus de voix, elle avait pris froid, elle avait demandé à être remplacée, comme n'importe quelle chanteuse dans l'opéra.
Et on lui avait dit, il faut que tu y ailles quand même.
Doublure. On l'a forcée. Mmh. On l'a forcée à monter sur scène. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pendant le premier acte. Et à la fin du premier acte, sa voix l'a quittée. Elle n'était pas en mesure de continuer. Et évidemment, ce soir-là, il y avait déjà une ambiance un peu sulfureuse dans cet opéra de Rome. La présence du président de la République, etc. Et elle a été sifflée. Et ça a été... C'était pour elle un coup de grâce. Elle dit d'ailleurs dans le film, en fait, dans ce récit, dans cette lettre ouverte que Fanny lit dans le film, elle dit c'était le moment rêvé pour traîner mon nom dans la boue et me faire payer toutes ces années de succès. Très différent du deuxième deuxième événement dont vous parlez, qui est celui de mai 65. Elle vient à Paris et elle veut leur offrir ce qu'il y a de plus beau, ce qui est son cheval de bataille, comme elle l'appelle, et c'est cette Norma. Et elle l'offre au public parisien en 64 pour une série de représentations, et elle revient en 65. Et malheureusement, cette Norma est devenue un Everest, est déjà un Everest. Et pour sa voix, qui à cette époque-là lui pose des difficultés, parce qu'elle a décidé de se dédier à sa vie de femme et qu'elle a délaissé un peu sa carrière et sa voix, eh bien... elle n'arrive pas à terminer cette dernière Norma de 65 sous la direction de Georges Prêtre. Et ce qui est formidable, c'est que ce soir-là, 7 ans après Rome, elle n'est pas sifflée dans le public, elle est applaudie. J'ai retrouvé un enregistrement de quelqu'un qui était là ce soir-là, qui a enregistré. Et je crois que ça, c'était très beau. C'est un témoignage d'amour et de reconnaissance pour tout ce qu'elle a donné. Parce que toute sa vie, elle a tout donné à ce public et à cet art auquel elle s'est dédiée totalement.
C'est la trame un peu du film de Zeffirelli, hein, Fanny Ardant, Callas Forever, sorti en 2002, dans lequel vous incarniez une Callas qui sait, peut-être pas sa carrière finie, mais en tout cas qui se sait très fragile. Elle est en train de sortir et elle refuse de céder deux fois au stratagème de son producteur pour se relancer.
Je me souviens d'une réplique qu'elle disait en anglais, justement, quand elle a tourné le film de Carmen avec la voix off, et elle dit de détruire ce film, elle dit « si j'avais une seule chose, c'était que j'ai été honnête et je ne veux pas finir ma vie sur une fraude ». Et ça m'avait fulguré, parce que quand on parlait au début, en quoi une grande artiste passe le temps. Vous voyez, ça fait 40 ans qu'elle est morte. Pourquoi ? Parce que plus qu'une chanteuse d'opéra, plus que c'était un être humain d'exception. Et que dans le film de Zeffirelli, c'était intéressant, parce qu'il n'a pas pris l'histoire, où on pourrait dire, la valise en carton et la métamorphose, qui est presque une injure à un artiste de cette dimension. Il a voulu justement prendre le moment où elle sait qu'elle est un peu abandonnée, qu'elle est toute seule dans son appartement de l'avenue Georges Mandel, où elle écoute ses anciens enregistrements. Et puis, un peu comme le pacte de Faust, on lui propose « mais tu pourrais revenir ». Et elle est, parce que ça y est, tout est encore intact en elle. Et puis qu'à la fin, non, retirons-nous, c'est fini.
Maria Callas, une vie, une œuvre à l'occasion des 40 ans de sa disparition, avec nos invités jusqu'à midi et demi, la comédienne et réalisatrice Fanny Ardant et le réalisateur et commissaire d'exposition Tom Wolf. Un film à apparaître le 13 décembre et une exposition en cours à la scène musicale Maria by Callas.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
J'ai eu de la vie comme carrière ce que j'aurais jamais imaginé de ma vie. J'aurais jamais rêvé de ma vie. Et alors je ne peux pas vouloir de plus que pouvoir, au moins pour quelques années, terminer en beauté. C'est tout ce que je demande.
C'est tout ce que je demande. Elle a vécu d'art, elle a vécu d'amour, comme dans un air célèbre de la Tosca. Mais tout n'a pas été si simple, sur scène comme dans sa vie privée, maladivement perfectionniste, parfois provocante, malheureuse en amour, heureuse aussi. J'ai souvent joué à l'opéra des héroïnes qui meurent par amour. C'est quelque chose que je peux comprendre. J'aurais fait pareil à leur place, dit-elle. Comme Aïda, qui rejoint Radamès dans la crypte pour y mourir dans ses bras. Extrait de cet opéra célèbre de Verdi. Ce 40e anniversaire, Warner Classics a concocté un coffret de 3 CD avec ses plus grandes interprétations. La Tosca, Lucia della Mermor, la Traviata, Médée, Norma, la Sonnambula, etc. Enregistrée sur scène et remasterisée. La Callas en 33 ou en 45 tours, une artiste très phonogénique. L'essor du disque, Tom Wolfe, a aussi contribué à lui offrir une telle popularité.
Oui, certes, très certainement, puisque elle a évidemment énormément enregistré en studio et ce sont des témoignages précieux de son art et de sa voix. Néanmoins, c'est intéressant, c'est quelque chose qu'on découvre aussi dans l'exposition, une interview où elle dit qu'elle n'aimait pas enregistrer en studio. Elle dit que elle devait en studio, réduire tout au minimum. Parce qu'à l'époque, les micros étaient très sensibles. Et puis, elle enregistrait toujours à la Scala, beaucoup, dans les théâtres vides. Et elle disait qu'elle avait besoin de l'atmosphère du théâtre, d'un théâtre rempli du public, et que ce n'était que sur scène qu'elle pouvait donner la totalité de ce qu'elle avait à donner à son art. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé de découvrir, j'ai eu l'occasion de rencontrer ceux qui avaient enregistré les fameux pirates qui étaient dans les salles, ou qui les transmissions à la radio de ces enregistrements, de ces représentations sur scène d'opéra ou de concert. Et je crois qu'on prend vraiment la dimension de son art en écoutant Callas sur scène. Et elle adorait ces enregistrements-là. C'est quelque chose qu'on ne sait peut-être pas. Quand elle, à la fin de sa vie, elle écoutait les enregistrements de sa jeunesse, elle n'écoutait que ces fameux disques pirates. Elle les adorait.
Vous êtes un proche de Jean-Luc Choplin, Tom Wolfe, le directeur de la scène musicale. Hein, Jean-Luc
Choplin. C'est grâce à lui que cette exposition oui. a lieu à la scène musicale.
Et vous avez travaillé ensemble déjà au Théâtre du Châtelet. C'est donc tout naturellement qu'il vous a ouvert les portes de son vaisseau pour cette exposition. La culture pour tous, l'excellence pour chacun. C'est d'ailleurs l'ambition affichée de cette nouvelle scène musicale proche de Paris. Mais c'était aussi la sienne, celle de Maria Callas. Elle a un répertoire plutôt grand public pour l'opéra. Elle savait aussi transmettre à la fois sur scène et par ses enregistrements. Ardent, comme on l'évoquait. Il faut rappeler un autre temps important de sa vie, c'est qu'elle va passer aussi 10 ans à enseigner, de 65 à sa mort, entre autres à la Juilliard School of New York. C'est à partir de ses enregistrements, d'ailleurs ceux de ses masterclass de 71 et 72, que le spectacle masterclass a été créé à Broadway d'abord par Terence McNally, puis à Paris, où vous avez repris ce rôle-titre, celui de Maria Callas. Callas a fait de ses leçons de chant une leçon de vie, c'est ce que vous disiez en 96 quand le spectacle a été monté. C'était aussi ça qui était important pour elle, transmettre.
Moi, je crois que c'est d'une façon beaucoup plus obscure. Quand on lui a proposé, elle n'a jamais pensé devenir professeur. Je pense que quand on est actrice ou chanteuse, ça arrive comme ça. Parce que c'est deux voies différentes, la pédagogie. Et d'ailleurs, c'est ça ce que j'aimais dans les masterclass. C'est qu'elle n'était pas le professeur qui disait « Oui, ma chérie, c'est très bien, mais on va recommencer. » Elle arrêtait tout de suite. Elle était envahie par la musique et l'interprétation. Et pour moi, je trouvais un professeur beaucoup plus intéressant, violent, brutale, allant tout de suite à l'os, plutôt que de dire, écoute, c'était très bien, mais on va recommencer. Tu vois, une forme d'hypocrisie. Et que c'était ça. C'était l'idée que dès qu'elle arrivait, elle voyait une chanteuse, elle savait qu'elle n'allait pas bien commencer l'air. Parce qu'elle n'avait pas écouté toute l'introduction musicale qui était comme une préparation, ou dans la somnambula, tu vois, quelque chose erratique. Et moi, j'ai beaucoup aimé avec, être dirigée par Polanski, avec des vrais chanteurs d'opéra. Parce que je comprenais, il y avait des gens qui disaient, oui, mais quand même, elle est brutale, ou elle a, mais moi, je comprenais le contraire. Je trouve qu'il faut mieux être dirigé par quelqu'un de passionné, plutôt que de quelqu'un de compréhensif. Parce que, en étant compréhensif, on accepte tout. Alors que quand on est tendu vers une sorte de direction passionnée dans la recherche de l'absolu, on lègue.
J'ai eu aussi l'occasion et la chance de rencontrer Terence McNally à New York, l'auteur de la pièce, qui avait lui-même assisté aux fameuses masterclass. Masterclass qu'on peut entendre aujourd'hui dans l'exposition, et on voit à quel point Fanny a raison. Elle était déterminée, enfin elle était totalement intègre quand on entend Maria Callas. Et Terence McNally avait été assez fidèle à cet esprit. Et il m'avait d'ailleurs confié que de toutes les actrices comédiennes qui avaient incarné Maria Callas dans sa pièce, c'est Fanny Ardant qui pour lui représentait ce que lui, le souvenir qu'il avait eu de Maria Callas dans ses masterclass à Juilliard.
Et voilà, la boucle est bouclée, on comprend pourquoi aujourd'hui, Fanny Ardant, vous êtes la voix dans ce film de Tom Wolfe, Maria by Callas in her own words. Le film sera en salle le 13 décembre et cette exposition Maria by Callas est à voir à la scène musicale jusqu'au 14 décembre. Première exposition donc mise en place dans ce lieu. Un grand merci à vous, Fanny Ardant.
Merci.
Et merci à vous, Tom Wolfe.
Merci beaucoup.